Chapitre 15. Cependant, les soldats s'approchaient toujours, mais avec prudence, et à chaque pas, ils s'arrêtaient, abrités par des massifs de feuillage, pour écouter les conseils du baron, qui ne voulait pas qu'ils se servissent de l'arc, de peur de blesser sa fille. Cet ordre ne plaisait guère aux soldats, car ils comprenaient que Robin ne les laisserait pas s'approcher de lui, assez près pour qu'ils pussent employer la lance, sans en tuer quelques-uns. « S'ils ont l'esprit de m'entourer, pensa Robin, je suis perdu. » Une éclaircie dans le feuillage lui permit bientôt d'apercevoir Fitz Alwin et le désir de la vengeance le mordit au cœur. « Robin, murmura alors la jeune fille, je me sens forte. Qu'est devenu mon père? Vous ne lui avez fait aucun mal, n'est-ce pas ?»«
Aucun mal, milady, répondit Robin en tressaillant. Mais... »
Et du doigt, il fit vibrer la corde de l'arc.
« Mais quoi ?»
s'écria Christabel, épouvantée par ce geste sinistre.
« C'est qu'il m'a fait du mal, lui ! Ah, milady, si vous saviez !»«
Où est mon père, messire ?»«
À quelques pas d'ici, répondit froidement Robin, et sa seigneurie n'ignore pas que nous ne sommes qu'à quelques pas d'elle. Mais ses soldats n'osent m'attaquer, ils redoutent mes flèches. »
« Écoutez-moi bien, milady, reprit Robin après une minute de réflexion. Nous tomberons inévitablement entre leurs mains si nous restons ici. Nous n'avons qu'une seule chance de salut, la fuite sans être vue, et pour y réussir, il nous faut beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid, et surtout, beaucoup de confiance en la protection divine. Écoutez-moi bien, si vous tremblez ainsi, vous ne comprendrez pas toutes mes paroles. C'est à vous d'agir maintenant. Enveloppez-vous dans votre manteau, dont la couleur sombre n'attire pas le regard, et glissez-vous sur la feuillée, presque terre à terre, en rampant s'il le faut.
« Mais les forces, encore plus que le courage, me manquent !» dit en pleurant la pauvre Christabel. « Ils m'auront tuée avant que je n'aie fait 20 pas. Sauvez-vous, messire, et ne vous préoccupez plus de moi. Vous avez fait tout ce qu'il était possible de faire pour me réunir à mon bien-aimé. Dieu ne l'a pas permis. Que sa sainte volonté soit faite et que sa sainte bénédiction vous accompagne. Adieu, messire, partez. Vous direz à mon très cher Alan que mon père n'exercera pas longtemps son pouvoir sur moi. Mon corps est brisé comme mon cœur. Je mourrai bientôt. Adieu. »
Non, milady, répliqua le courageux enfant. Non, je ne fuirai pas. J'ai fait une promesse à messire Alan, et pour remplir cette promesse, j'irai toujours en avant, à moins que la mort ne m'arrête. Reprenez courage, Alan est peut-être déjà rendu dans la vallée. Peut-être aussi, en voyant ma flèche, se mettra-t-il à notre recherche. Dieu ne nous a pas encore abandonnés.
Alan, Alan, cher Alan, pourquoi ne venez-vous pas ?
S'écria Christabel éperdue. Soudain, comme pour répondre à cet appel du désespoir, retentit à travers l'espace le hurlement prolongé d'un loup. Christabel, agenouillée, tendit les bras au ciel d'où vient tout secours. Mais Robin, les joues colorées d'une vive rougeur, voûta ses deux mains autour de sa bouche et répéta le même hurlement.
« On vient à notre aide, » dit-il ensuite joyeusement. « On vient, milady. Ce hurlement, c'est un signal convenu entre forestiers. » J'ai répondu et nos amis vont paraître. Vous voyez bien que Dieu ne nous abandonne pas. Je vais leur dire de se hâter. »
Et avec une seule main placée en entonnoir devant ses lèvres, Robin imita le cri d'un héron poursuivi par un vautour.
« Cela signifie, milady, que nous sommes en détresse. »
Un cri semblable de héron effrayé se fit entendre à une faible distance.
« C'est Will, c'est l'ami Will !» s'écria Robin. « Courage, milady, glissez-vous sous la feuillée, vous y serez à l'abri. Une flèche égarée est à craindre. »
Le cœur de la jeune fille battait à se rompre, mais, soutenue par l'espérance de voir bientôt Alan, elle obéit et disparut, souple comme une couleuvre, dans l'épaisseur du fourré. Pour faire diversion, Robin poussa un grand cri, sortit de sa cachette et alla d'un seul bond se placer derrière un autre arbre. Une flèche vint aussitôt s'implanter dans l'écorce de cet arbre. Notre héros, prompt à la riposte, salua son arrivée par un éclat de rire moqueur et, échangeant flèche contre flèche, je tabas le malheureux soldat.
« En avant, imbécile, lâche ! En avant !» vociférait fils Adouine. « Sinon, il vous tuera tous ainsi, les uns après les autres. »
Le baron poussait ses gens au combat, tout en se faisant un gabion de chaque arbre, lorsqu'une grêle de flèches annonça l'entrée en lice de Petit Jean, des sept frères Gamouel, d'Alan Clerc et de frère Tuck. À l'aspect de cette vaillante troupe, les gens de Nottingham jetèrent bas les armes et demandèrent quartier. Le baron seul ne capitula pas et se jeta dans les broussailles en rugissant. Robin, en apercevant ses amis, s'était élancé sur les traces de Christabel. Mais Christabel, au lieu de s'arrêter à une petite distance, avait continué sa course, soit par terreur, soit par oubli des conseils de Robin, soit par fatalité. Robin retrouvait facilement les traces de la jeune fille, mais il appelait vainement, l'écho seul répondait à sa voix. Le jeune archer s'accusait déjà d'imprévoyance, quand tout à coup, un cri de douleur frappa son oreille. Il bondit dans la direction d'où partait ce cri et aperçut un cavalier du baron qui saisissait Christabel par la taille et l'enlevait sur son cheval. Encore une de ces flèches vengeresses partit. Le cheval, blessé en plein poitrail, se cabra et le soldat et Christabel roulèrent dans le sentier. Le soldat abandonna Christabel et chercha, rapière en main, sur qui venger la mort de sa bête. Mais il n'eut point le loisir de reconnaître son adversaire, car il tomba lui-même sans mouvement près de la victime, et Robin arracha Christabel d'auprès ce nouveau cadavre, de peur que le sang qui s'écoulait d'une blessure à la tête ne souillât la jeune fille. Lorsque Christabel ouvrit les yeux et qu'elle entrevit la noble physionomie du jeune archer penché vers elle, elle rougit et lui tendit la main en lui disant ce seul mot « Merci !» Mais ce seul mot fut dit avec un tel sentiment de gratitude, avec une si profonde émotion, que Robin, rougissant à son tour, baisa cette main qu'on lui offrait. « Pourquoi vous êtes-vous si rapidement éloigné, Milady ? Et comment avez-vous été surprise par ce mercenaire ? Les autres ont mis bas les armes et demandent quartier à Messire Alan. »
Alan, cet homme m'a reconnu, s'est saisi de moi en s'écriant « Cent écus d'or, hurrah, cent écus d'or !» Mais vous dites qu'Alan ?
Je dis que Messire Alan Clerc vous attend. La jeune fille eut des ailes aux pieds, déjà si fatiguée, mais elle s'arrêta stupéfaite, interdite, devant le cortège qui entourait le chevalier. Robin prit la main de Christabel et lui fit faire quelques pas vers le groupe. Mais à peine Alan l'eut-il aperçu, que sans tenir compte des hommes présents, mais aussi sans pouvoir articuler une seule parole, il s'élança vers elle, l'étreignit sur sa poitrine et couvrit son front des plus tendres baisers. Christabel, palpitante, ivre de joie, morte de bonheur à force d'être heureuse, n'était plus entre les bras d'Alan qu'une forme humaine. Toute la force vitale était dans le regard, dans les lèvres frémissantes, dans les folles palpitations du cœur. Enfin, les larmes, les sanglots, sanglots de bonheur, larmes d'allégresse, se firent jour. Ils reprirent conscience de leur être et ils purent se le dire par de longs regards où le fluide d'amour remplaçait le fluide lumineux. L'émotion des spectateurs de cette réunion, ou plutôt de cette fusion de deux âmes, était grande. Maud, comme si elle en ressentait l'envie, s'approcha de Robin, lui prit les deux mains et voulut lui sourire. Mais ce sourire égrenait une à une de grosses larmes sur ses joues veloutées, et ses larmes roulaient sans se briser, comme roulent les gouttes d'eau sur les feuilles. « Et ma mère, et Gilbert ?» demanda le jeune homme en pressant les mains de Maud dans les siennes. Maud apprit en tremblant à Robin qu'elle ne s'était pas rendue au cottage et qu'Albert y était allé seul. « Petit Jean, dit Robin, vous avez vu mon père ce matin. Ne lui était-il rien arrivé de malheureux ?»«
Rien de malheureux, cher ami, mais des choses étranges qu'on te racontera. J'ai laissé ton père tranquille et bien portant ce matin, c'est-à-dire à 2 heures après minuit. »«
Pourquoi t'inquiéter ainsi, Robin ?» demanda Will, qui se rapprochait du jeune archer pour être dans le voisinage de Maud.
« J'ai des motifs sérieux de m'inquiéter. » Un sergent du baron Fitzalwin m'a dit avoir incendié ce matin la maison de mon père et jeté ma mère dans les flammes. »
« Et que lui as-tu répondu ? » s'écria Petit-Jean.
« Je ne lui ai pas répondu, je l'ai tué. A-t-il dit la vérité ? A-t-il menti ? Je veux y aller voir, je veux voir mon père et ma mère, » ajouta Robin, la voix pleine de larmes.
« Sœur Maud, partons. »
« Miss Maud est ta sœur ? » s'écria Will. « Vraiment, je ne te savais pas si heureux il y a 8 jours. »«
Il y a 8 jours, je n'avais pas encore de sœur, cher Will. »
« Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être frère, » répliqua Robin en essayant de sourire.
« Je n'aurai qu'un souhait à faire pour mes sœurs, » ajouta galamment Will, « ce serait qu'elles ressemblassent en tout à mademoiselle. »
Robin regarda Maud d'un œil curieux. La jeune fille pleurait.
« Où est ton frère Albert ?» demanda Robin.
« Je vous l'ai déjà dit, Robin, Al se dirige vers le cottage de Gilbert. »
« Sur mon âme, je crois l'apercevoir !» s'écria vivement le moine Tuck. « Regardez !»
En effet, Al arrivait à franc étrier, monté sur le plus beau cheval des écuries du baron.
« Voyez, mes amis !» s'écria orgueilleusement le jeune garçon. « Quoique séparé de vous, je me suis bien battu. J'ai gagné la meilleure bête de tout le comté. »«
Ah, vous croyez cela, que je me suis battu ?
Eh bien non !» J'ai trouvé le cheval sans cavalier et broutant l'herbe de la forêt. »
Robin sourit en reconnaissant la monture du baron, cette monture qui lui avait servi de cible.
On tint conseil. À cette époque où les grands possesseurs de fiefs agissaient en souverains sur leurs vassaux, guerroyaient avec leurs voisins et se livraient au pillage, au brigandage, au meurtre, sous prétexte d'exercer les droits de haute et de basse justice, souvent, des luttes terribles s'engageaient de château à château, de village à village, et la bataille finie, vainqueurs et vaincus se retiraient, chacun de son côté, prêts à recommencer à la première occasion favorable. Le baron de Nottingham, battu pendant cette nuit fertile en événements, pouvait donc tenter de reprendre, le jour même, sa revanche. Ses hommes reçus à Cartier ralliaient déjà le château, ils possédaient encore bon nombre de lances qu'ils n'avaient pas mises en campagne, et les gens du hall de Gamwell, seuls partisans d'Alan Clare et de Robin, n'étaient pas de force à lutter longtemps contre un aussi puissant seigneur. Il fallait donc, pour conserver l'avantage, suppléer au manque de bras par la prudence, par la ruse et par l'activité aussi bien que par le courage. Voilà pourquoi nos amis tinrent conseil pendant que le baron, accompagné de 2 ou 3 serviteurs, regagnait piteusement son manoir. La présence de Christabel empêchait qu'on l'inquiétât dans sa retraite. Il fut décidé que messieurs Alan et Christabel se réfugieraient immédiatement au hall par la route la plus courte. Will l'Écarlate, ses 6 frères et le cousin Petit-Jean les accompagneraient. Robin, Maud, Tuck et Albert devaient se rendre à la demeure de Gilbert Head. Dans la soirée, on échangerait des messages et on se tiendrait prêt, s'il le fallait, à se réunir sur tel point ou sur tel autre. William n'approuvait pas ces dispositions et employait toute son éloquence pour convaincre Maud de la nécessité où elle se trouvait d'accompagner sa maîtresse au hall. Maud, prenant sérieusement à cœur son nouveau titre de sœur de Robin, n'y voulait rien entendre. Mais Will fit si bien que Christabel s'associa à ses désirs sans en comprendre le but et contraignit Maud à la suivre. Robin Hood, dit Alan Clare en prenant les mains du jeune archer dans les siennes. Robin Hood, c'est en risquant 2 fois votre vie que vous avez sauvé la mienne et celle de Lady Christabel. Vous êtes donc plus qu'un ami pour moi, vous êtes un frère. Or, entre frères, tout est commun. À vous donc mon cœur, mon sang, ma fortune. À vous tout ce que je possède. Quand je cesserai d'être reconnaissant, c'est que j'aurai cessé de vivre. Adieu.
Adieu, messire.
Les 2 jeunes gens s'embrassèrent et Robin porta respectueusement à ses lèvres les doigts blancs de la belle fiancée du chevalier.
Adieu, vous tous, cria Robin en envoyant un dernier salut au Gamwell.
Adieu, répondirent-ils en agitant en l'air leurs bonnets.
« Adieu !» murmura une douce voix. « Adieu !»«
Au revoir, chère Maud, » dit Robin. « Au revoir. N'oubliez pas votre frère. » Alan et Christabel, montés sur le cheval du baron, partirent les premiers.
« La Sainte Vierge les protège, eux !» dit tristement Maud.
« Le fait est que le cheval va bien !» répondit Albert.
« Enfant !» murmura Maud, et un soupir profond s'échappa de ses lèvres.
Le noble animal qui emportait Lady Christabel et Alan Clare vers le hall de Gamwell marchait rapidement, mais avec une souplesse, une douceur infinie de mouvement, comme s'il eût compris la nature de son précieux fardeau. La bride flottait sur son cou gracieusement cambrée, mais il ne quittait pas le sol des yeux, de crainte d'interrompre par un faux pas le dialogue des amoureux. De temps en temps, le jeune homme tournait la tête et ses paroles se touchaient avec les paroles de Christabel, qui, pour se soutenir en selle, serrait la taille du cavalier entre ses bras. Que pouvait-il se dire après une si terrible nuit? Tout ce que le délire du bonheur inspire, beaucoup quelquefois, parfois aussi rien. Les uns ont le bonheur éloquent, les autres sont silencieux. Christabel s'adressait des reproches sur sa conduite envers son père. Elle se voyait blâmée, repoussée par le monde, pour avoir fui avec un homme. Elle se demandait si plus tard, Alan lui-même ne la mépriserait pas. Mais ses reproches, ses scrupules, ses craintes, elle ne les exprimait que pour avoir le plaisir de les entendre réduire à néant par l'éloquence persuasive du chevalier.
« Que deviendrions-nous si mon père avait le pouvoir de nous séparer, cher Alan ?»«
Il ne l'aura bientôt plus, adorée Christabel. Bientôt, vous serez ma femme, non seulement devant Dieu comme aujourd'hui, mais encore devant les hommes. »«
Moi aussi, j'aurai des soldats, » ajouta fièrement le jeune chevalier, « et mes soldats vaudront ceux de Nottingham. »
Plus de soucis, chère Christabel, abandonnons-nous à la jouissance de notre bonheur et à la protection divine.
Fasse Dieu que mon père nous pardonne.
Si vous redoutez le voisinage de Nottingham, ma bien-aimée, nous irons vivre dans les îles du Sud, où il y a toujours un beau ciel, de chauds rayons de soleil, des fleurs et des fruits. Exprimez un désir, je trouverai pour vous un paradis terrestre.
« Vous avez raison, cher Alan, nous serions plus heureux là-bas que dans cette froide Angleterre. »«
Vous quitteriez donc sans regret l'Angleterre ?»«
Sans regret, pour vivre avec vous, je quitterai le ciel, » ajouta tendrement Christabel.
« Eh bien, sitôt mariés, nous partirons pour le continent. Marianne nous suivra. »«
Chut !» s'écria la jeune fille. « Écoutez, Alan, on nous poursuit. »
Le chevalier arrêta son cheval. Christabel ne s'était pas trompée, le retentissement d'un galop de chevaux arrivait jusqu'à eux, et de minute en minute, de seconde en seconde, ce bruit d'abord lointain, augmenté d'intensité, se rapprochait.
Fatalité ! Pourquoi avons-nous devancé nos amis de Gamwell ? Murmurait Alan qui éperonna son cheval pour faire volte-face et s'enfoncer dans le taillis, car il se trouvait alors sur le bord d'une route.
En ce moment, un hibou, réveillé par le bruit, sortit d'un tronc d'arbre voisin, poussa un cri lugubre et rasa de son vol les narines du cheval qui allait obéir à l'éperon. Le cheval épouvanté s'affola et, au lieu de fuir dans la direction choisie par Alan, se lança à fond de train sur la route.
« Courage, Christabel !» cria le jeune homme qui luttait inutilement contre la folie de la bête. « Courage ! Tenez-vous ferme ! « Un baiser, Christabel, et Dieu nous sauve !»
Une bande de cavaliers aux couleurs du baron se présentait en ligne et tenait toute la largeur de la route. La fuite était impossible en tournant le dos aux cavaliers et l'on ne pouvait miraculeusement échapper qu'en forçant leur ligne. Alan vit le danger et ne pensa plus qu'à le braver. Clouant alors les molettes de ses éperons dans les flancs du cheval, il donna tête baissée au milieu des hommes d'armes et passa comme l'éclair qui traverse la nuit.
Change de main, volte-face, commanda le chef de la troupe qu'exaspéra ce trait d'audace.
Visez à la bête, hurla le chef, et malheur à qui blessera Milady. Une grêle de flèches tomba autour d'Alan, mais le noble cheval ne ralentit pas sa course, mais Alan ne perdit pas courage.
Enfer, il nous échappe, hurla le chef. « Au jarret, tirez au jarret !»
Quelques instants après, les cavaliers entouraient les deux amants, jetés sur le gazon par la chute mortelle du pauvre cheval.
« Rendez-vous, chevalier !» dit le chef avec une ironie courtoise.
« Jamais !» répondit Alan, qui, déjà debout, avait dégainé sa rapière. « Jamais ! Vous avez tué Lady Fitzhalloween !» ajouta le jeune homme en montrant Christabel évanouie à ses pieds. « Eh bien, je mourrai en la vengeant !»
L'inégale lutte ne fut pas de longue durée. Alan tomba criblé de blessures et les soldats reprirent le chemin de Nottingham, emportant Christabel comme un enfant endormi. William eut un remords de conscience et rejoignit son cher Robin. Il croyait pouvoir lui être utile et se promettait de revenir ensuite promptement au hall, se livrer à l'admiration des beaux yeux de Miss Hubert Lindsay. Mais Petit Jean, très formaliste, le rappela.
« Il convient, dit-il, que tu sois l'introducteur au hall de ces nouveaux arrivants. J'accompagnerai Robin, moi. »
William y consentit. Il n'aurait eu garde de refuser les devoirs que lui imposait l'amitié. C'est pendant ce court entretien qu'Alan et Christabel avaient devancé les Gamwell, et Robin lui-même, croyant abréger sa route, marcha quelque temps encore en leur compagnie, jusqu'à ce qu'il trouvât un certain sentier à lui bien connu. Al et Maud avaient aussi pris les devants. Mais frère Tuck s'était arrêté pour attendre le gros de la troupe. Tout en causant, les jeunes gens arrivèrent au petit carrefour où Robin devait se séparer d'eux et non loin duquel frère Tuck attendait, mollement assis sur le gazon. Il rêvait de la cruelle Maud, le pauvre frère. Les derniers souhaits du départ se répétaient pour la millième fois quand les yeux de quelques-uns des Gamwell découvrirent à une faible distance le corps sanglant d'un homme étendu sur le sol.
« Un soldat du baron !» dirent les uns.
« Une victime de Robin !» ajoutèrent les autres.
« Ciel ! Un affreux malheur est arrivé !» s'écria Robin, qui reconnut aussitôt Alan Clare.
« Ah, mes amis, voyez, l'herbe est foulée par des piétinements de chevaux. On s'est battu ici !»
« mon Dieu, il est mort peut-être. Et Lady Christabel, qu'est-elle devenue ?»
Tous les amis firent cercle autour du corps qui paraissait sans vie.
« Il n'est pas mort, rassurez-vous !» s'écria Tuck.
« Béni soit Dieu !» répéta le groupe.
« Le sang coule par cette grande blessure au sommet de la tête, le cœur bat. Alan, messire chevalier, vos amis vous entourent, ouvrez les yeux !»
« Fouillez les environs, dit Robin, cherchez Lady Christabel. »
Ce doux nom prononcé par Robin ranima chez Alan la vie bien près de s'éteindre.
« Christabel, murmura-t-il.
« En sûreté, messire, cria le moine qui s'occupait à cueillir quelques plantes utiles en pareilles circonstances.
« Vous répondez de lui ? Demanda Robin au moine.
« J'en réponds. Sitôt la blessure pansée, on le transportera au hall à l'aide d'une litière en branches d'arbre.
« Alors, adieu, messire Alan, dit Robin, penché tristement sur le blessé. Nous nous reverrons. »
Alan ne put répondre que par un faible sourire. Tandis que les robustes bras des Gamwell transportaient lentement au hall le pauvre Alan Clare, Robin, dévoré d'inquiétude, s'avançait rapidement vers la demeure de son père adoptif. L'infortune d'Alan et ses craintes personnelles lui oppressaient le cœur. Il maudissait l'étendue, l'espace. Il aurait voulu voler plus rapidement que ne volent les hirondelles, il aurait voulu percer l'épaisseur de la forêt, embrasser Marguerite et Gilbert pour être certain qu'il vivait encore.
« Vous avez des jambes de cerf, dit Petit Jean.
« On les a toujours ainsi quand on veut, répondit Robin. »
En entrant dans la vallée d'Aune qui conduisait à la maison de Gilbert, les deux jeunes gens reconnurent avec terreur l'affreuse véracité des paroles de Lambic. Un épais nuage de fumée tourbillonnait encore au-dessus des arbres et les âcres senteurs de l'incendie imprégnaient l'atmosphère. Robin jeta un cri de désespoir et, suivi de Petit Jean non moins peiné, il s'élança en courant dans l'avenue. À quelques pas des noirs décombres, là où la veille souriait encore par ses fenêtres éclairées la joyeuse maison, était agenouillé le pauvre Robin, et ses mains pressaient convulsivement les mains froides de Marguerite étendues devant lui.
« Père, père !» cria Robin.
Une sourde exclamation s'échappa des lèvres de Gilbert. Puis il fit quelques pas vers Robin et tomba en sanglotant dans les bras tendus du jeune homme. Cependant, l'énergie naturelle du vieux forestier fit taire un instant les plaintes, les larmes et les sanglots. « Robin, dit-il d'une voix ferme, tu es le légitime héritier du comte de Huntingdon. Ne tressaille pas, c'est vrai. Tu seras donc puissant un jour, et tant qu'il y aura un souffle de vie dans mon vieux corps, il t'appartiendra. Tu auras donc pour toi la fortune d'un côté, mon dévouement de l'autre. » « Eh bien, regarde, regarde-la, morte, assassinée par un misérable, celle qui t'aimait tendrement, sincèrement, comme elle eût aimé le fils de ses entrailles. »« Oh oui, elle m'aimait !» murmura Robin, agenouillé auprès du corps de Marguerite. « Voilà ce qu'ils ont fait de ta mère, un cadavre. Voici ce qu'ils ont fait de ta maison, une ruine. Comte de Huntingdon, vengeras-tu ta mère ?» « Je la vengerai !» Et, se levant fièrement, le jeune homme ajouta « Le comte de Huntingdon écrasera le baron de Nottingham et la seigneuriale demeure du noble lord sera, comme la maison de l'humble forestier, dévorée par les flammes. »« Je jure à mon tour, dit Petit Jean, de ne laisser ni repos ni trêve au fils Halloween, à ses gens et tenanciers. » Le lendemain, le corps de Marguerite, transporté au hall par Lincoln et Petit Jean, fut pieusement enterré dans le cimetière du village de Gamwell. Les mémorables événements de cette étrange nuit avaient réuni comme une seule famille, pour se venger du baron Fitz Halloween, les divers personnages de notre histoire.